Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 2 février 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En RDC, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'homme. Celle-ci s'est considérablement détériorée dans l'est du pays, estime l'organisation dans un rapport. Au Tchad, climat politique tendu à quelques mois de la présidentielle, les marches pacifiques prévues du 4 au 6 février par le parti Les Transformateurs et les activistes ont été interdites. Dans ce journal, nous ferons également le point sur la pandémie du COVID-19 dans le monde. Ici, aux États-Unis, une possible naturalisation pour quelques 9 millions de migrants. Des mesures dans ce sens sont envisagées par la Maison-Blanche. Également, dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Il s'agit d'un nouvel avertissement de l'ONU. La situation des droits de l'homme s'est considérablement détériorée entre juillet et décembre dernier dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'attaque du groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées. Le bureau onusien des droits de l'homme le détaille dans un rapport publié aujourd'hui. Jacques Aristide.
C'est un nouveau compte-rendu de la tragédie qui se joue en RD Congo. D'après l'ONU, les ADF ont continué les attaques contre les populations civiles avec un pic à la fin de l'année dernière à Rwenzori. Du 1er juillet au 31 décembre 2020, 313 atteintes aux droits de l'homme ont été documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui représente une augmentation considérable. 173 atteintes ayant été documentées pendant les 6 mois précédents, relève le rapport. Ces atteintes ont fait au moins 468 victimes civiles d'exécutions sommaires, parmi lesquelles 345 hommes, 108 femmes et 15 enfants. Par ailleurs, le sort de 457 personnes, dont 62 femmes et 9 mineurs, est à ce jour inconnu. Ce qui fonde ce bureau de l'ONU à classer ces personnes parmi les cas de disparition forcée jusqu'à preuve du contraire. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais opposés aux au régime de Yoweri Museveni, sont accusés d'avoir tué plus d'un millier de civils depuis plus de 5 ans dans la région de Beni, au nord Kivu et ses environs. En juillet dernier, l'ONU avait déjà fait état d'une aggravation de la situation des droits de l'homme dans cette partie du pays.
Toujours en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, un proche de Joseph Kabila, fait face à une double offensive judiciaire et politique 4 jours seulement après la destitution du premier ministre issu de son camp. C'est ce qu'indiquent des sources judiciaires et parlementaires. Lundi, le procureur de la Cour de cassation a sollicité le bureau du Sénat pour qu'il autorise l'instruction à charge contre M. Thambwe Mwamba pour détournement de près de 3 millions de dollars. De l'argent que le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, se serait fait remettre à sa résidence le 6 janvier. Tout à côté, au Congo-Brazzaville, les évêques ont émis ce mardi de sérieuses réserves sur l'organisation et la transparence du scrutin présidentiel du 21 mars, pour lequel le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 36 ans cumulé à la tête du pays, est candidat à un 4e mandat. Dans une déclaration lue devant la presse, la conférence épiscopale du Congo appelle ainsi à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible. Depuis mars 2020, les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui concentrent environ la moitié de la population du pays, vivent sous couvre-feu imposé par les mesures de lutte contre le coronavirus qui a déjà tué officiellement 120 personnes. Au Tchad, le mois de février s'annonce mouvementé dans les quartiers généraux des partis politiques de toute tendance à quelques mois des élections présidentielles. Pendant que le président Idriss Déby, potentiel candidat à sa propre succession, est en pleine tournée dans le sud du pays, le gouvernement a interdit les marches pacifiques du parti Les Transformateurs prévues du 4 au 6 février prochain. Des manifestations pacifique soutenu par les mouvements citoyens et le collectif des diplômés sans emploi. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point. Ndjamena.
Ces manifestations pacifiques qui doivent se dérouler de façon sporadique sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora visent, selon les organisateurs, à s'opposer au sixième mandat du président Déby au pouvoir depuis 30 ans. Ces forces vives exigent également une réforme constitutionnelle dans l'urgence pour ramener l'âge requis pour être candidat à l'élection présidentielle à 35 ans, comme fixé par la charte de la jeunesse de l'Union africaine. Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, qualifie la décision interdisant les marches pacifiques d'arbitraire.
Où est donc la justice si, le 6 février, le parti au pouvoir et son président peuvent organiser leur congrès et les autres Tchadiens majoritaires n'ont pas le droit, eux, de marcher pacifiquement. Donc oui, nous maintenons cette marche du peuple.
Pour le ministre en charge de la sécurité publique, Mahamat Ourouzi, ces manifestations sont susceptibles de troubler à l'ordre public. Des véhicules canons à eau de la police anti-émeute circulent déjà depuis ce mardi matin à travers les quartiers sud de N'Djamena. Paniqués, certains habitants voisins à Succès Masra décident d'évacuer les enfants et les personnes vulnérables du quartier dès ce mercredi 3 février pour les mettre à l'abri de gaz lacrymogènes. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le procès des accusés dans l'assassinat du Français Hervé Gourtel, un guide de haute montagne enlevé et décapité par des djihadistes en Algérie, s'ouvre jeudi à Alger plus de 6 ans après les faits, au grand soulagement des proches de la victime. Cet homme, dont le seul suspect connu aux mains de la justice, Abdelmalek Hamzaoui, doivent comparaître devant le tribunal de première instance de Dar el Baïda en banlieue d'Alger. 14 personnes au total sont poursuivies dans cette affaire, dont 7 sont jugées par contumace.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une situation chaotique sur la côte est des États-Unis. Elle est provoquée par une puissante tempête qui a entraîné l'annulation de centaines de vols, la fermeture des écoles et le report des vaccinations anti-Covid. À New York, on parle de l'une des plus fortes chutes de neige de l'histoire. De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d'habitants ont été placés en état d'alerte face à cet épisode neigeux accompagné de bourrasques allant jusqu'à 80 km/h. Lundi à 19h, heure locale à New York, la couche de neige avait atteint plus de 41 cm à Central Park, selon le Service météorologique national. Le président Joe Biden va demander ce mardi à son gouvernement de faciliter la naturalisation des 9 millions de migrants éligibles à la citoyenneté américaine dans le cadre d'une série de mesures destinées à moderniser le système d'immigration. Abdourahman Dia.
Le président démocrate ordonnera également de passer en revue tous les actes posés par son prédécesseur Donald Trump que la nouvelle administration considère comme un frein à l'immigration. La stratégie de Biden est fondée sur le postulat de base que notre pays est plus sûr, fort et prospère avec un système migratoire sain, rationnel et humain, ont expliqué des responsables de son administration lors d'un point de presse en amont de la signature de 3 décrets présidentiels dans l'après-midi. Il prévoit de rendre la naturalisation plus accessible aux 9 millions de personnes éligibles à la citoyenneté américaine selon ses responsables. L'un des décrets porte sur la mise en place d'un groupe de travail chargé de réunir les familles de migrants séparées par la politique de tolérance zéro à la frontière adoptée par l'administration Trump en 2018. Face au tollé, le gouvernement républicain y avait renoncé, mais des centaines d'enfants n'ont jamais retrouvé leurs parents. Ce groupe de travail aura pour mission de les identifier et de proposer des solutions pour réunifier les familles, ont précisé les hauts responsables, sans dire si cela pourrait inclure le retour sur le sol américain des parents ou des enfants expulsés.
Le point sur la pandémie du coronavirus dans le monde et la campagne de vaccination contre le COVID-19 prend son essor à travers le monde malgré les critiques sur sa lenteur dans l'Union européenne. Claire Morin-Gibourg.
Israël est de loin le pays le plus en avance, plus d'un tiers de sa population ayant déjà reçu au moins une dose. En valeur absolue, ce sont les États-Unis qui viennent en tête avec plus de 32 millions de doses administrées à près de 8% de leur population. Nouvel espoir sur le front des vaccins, des résultats publiés mardi dans la revue médicale de Lancet et validés par des experts indépendants ont indiqué que le vaccin Sputnik V au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, ce vaccin est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19. Sur le continent, 6 nouveaux cas de contamination au variant britannique du Covid-19 ont été détectés dans l'ouest du Nigeria, a fait savoir le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies. L'Ouganda a annoncé ce mardi la réouverture de ses écoles, fermées depuis près d'un an. Le gouvernement a également annoncé l'achat de 18 millions de doses du vaccin AstraZeneca, produit par l'Institut Sérum en Inde. Aucune date n'a été fournie sur leur arrivée en Ouganda.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Banque mondiale suspend un financement de 100 millions de dollars en faveur de la gratuité et de l'enseignement en RDC après que l'Inspection générale des finances a révélé en novembre dernier des listes d'enseignements fictifs dans des écoles inexistantes, des fausses factures et un détournement présumé de 31 millions de dollars. Les 100 millions de dollars représentaient la première tranche des 800 millions de dollars que la Banque mondiale a approuvée en juin 2020 pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire public en RDC. Au Burkina Faso, 8 personnes ont été tuées dimanche lors d'un braquage sur un site d'orpaillage de Dikando dans le sud-ouest pour dépouiller des acheteurs de leur or. Le secteur aurifère officiel compte environ 65 000 emplois. Le sous-secteur artisanal, appelé aussi orpaillage, emploie 1,5 million de personnes et produit annuellement environ 10 tonnes d'or. Ce sous-secteur est également exploité par des groupes djihadistes qui y tirent une importante manne pour financer leurs activités. Pour terminer, en Afrique du Sud, le nombre des rhinocéros dans le parc national Kruger a diminué de près de 70% au cours de la dernière décennie, a constaté le Fonds mondial pour la nature. L'organisation indique que cette diminution est la conséquence de la sécheresse et du braconnage. Il ne reste plus que 3549 rhinocéros blancs et 268 rhinocéros noirs dans le Kruger. L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population de rhinocéros de la planète.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se déroule au Cameroun, mettront aux prises demain le Mali et la Guinée au stade de Japoma à Douala. Coup d'envoi, 15h temps universel, puis à 19h place au choc Maroc-Cameroun à Limbé. La finale se disputera le 7 février au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre se jouera sous le regard d'Ahmad Ahmad qui a repris les commandes de la Confédération africaine de football après la décision du tribunal arbitral du sport qui a suspendu la sanction prononcée contre lui par la commission d'éthique de la FIFA en novembre dernier. Cette commission l'avait suspendu 5 ans de toute activité liée au football pour, entre autres, détournement présumé de fonds. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, 73 ans, a été contrôlé positif au Covid-19, a annoncé le club espagnol. Il ne présente aucun symptôme, a indiqué le Real dans un communiqué. Le 22 janvier, le club madrilène a annoncé que son entraîneur Zinedine Zidane a été testé positif au Covid-19. 3 jours plus tard, c'était le défenseur international Nacho Fernandez qui s'est révélé infecté. Sans symptômes, Zinedine Zidane s'est retourné ce mardi sur le terrain après s'être isolé pendant une dizaine de jours. Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier de 2020 à 2021 en raison de la pandémie, auront lieu quoi qu'il arrive concernant l'évolution de la crise sanitaire. C'est ce qu'a affirmé le président du comité d'organisation japonais, Yoshiro Mori. Nous devons dépasser les débats sur le fait de les tenir ou pas. La question, c'est de savoir comment nous les organiserons, a martelé Yoshiro Mori. Cette déclaration intervient alors qu'un durcissement des conditions d'accès au Japon pour les non-résidents a déjà forcé le report de plusieurs événements sportifs, dont une épreuve test de natation synchronisée. Cette épreuve, qui sert aussi de tournoi de qualification olympique, a été décalée à début mai, alors qu'elle devait se tenir début mars. Le relais de la flamme olympique à travers le Japon doit toujours démarrer le 25 mars. Ici, en NBA, les Lakers ont bouclé leur road trip par un 5e succès en 7 matchs à Atlanta. LeBron James a pris les choses en main en fin de match après avoir été insulté par une spectatrice aussitôt éjectée de la salle. Le King a mis les 9 derniers points des Lakers en moins d'une minute pour régler l'addition 107 à 99. Il a fini avec 21 points, 9 passes décisives et 7 rebonds. Les Milwaukee Bucks se sont imposés contre les Blazers 134 à 106. Houston a décroché un succès consécutif à Oklahoma City 136 à 106. Dallas s'est effondré face aux Suns 109 à 108.
Merci Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Burkina Faso, où l'on parle d'avancées médicales majeures. Le pays a enregistré sa première intervention de la chirurgie à cœur ouvert. Désormais, les patients nécessitant une telle intervention pourront être soignés sur place au lieu d'être évacués à l'étranger. Les précisions dans ce reportage de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Tengango, l'un des deux plus grands centres de santé de la capitale et de tout le pays. Une équipe médicale s'apprête à réaliser une intervention historique. Une chirurgie à cœur ouvert. Professeur Adama Sanou, directeur du centre hospitalier universitaire de Tengango.
La chirurgie à cœur fermé, comme son nom l'indique, le cœur n'est pas ouvert. On n'est pas obligé de l'arrêter pour travailler. Et lorsque vous ouvrez le cœur, étant donné que c'est une pompe, si vous n'arrêtez pas le cœur et que vous ne permettez pas au sang de passer à travers une machine pour continuer à irriguer les tissus, le patient ne peut pas survivre. Donc c'est pour ça que la chirurgie à cœur ouvert est plus complexe que la chirurgie à cœur fermé.
Des médecins burkinabés assistés par des confrères français, italiens et sénégalais sont à la tâche. L'opération dure plusieurs heures. C'est une réussite.
Nous sommes contents d'avoir pu, même si on n'a pas abouti, on a essayé quand même démarrer les choses.
Cette intervention de la chirurgie à cœur ouvert coûte entre 4,5 millions de francs CFA à 5 millions. Si les patients doivent être évacués, cela coûte encore plus cher. Cela fait 20 ans que l'association La Chaîne de l'Espoir prend en charge ses patients, surtout les plus jeunes. Eric Jason, président de l'ONG Chaîne de l'Espoir.
Nous sommes ici depuis 1998 et nous avons fait venir plusieurs centaines d'enfants en France. Le but, bien entendu, c'était de les opérer dans leur pays. C'est-à-dire ici, avec des chirurgiens burkinabés. Et donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un événement considérable. Pour la première fois, plusieurs enfants ont été opérés à cœur ouvert par un chirurgien, bien sûr avec l'équipe française, mais aussi avec le chirurgien burkinabé que nous avons formé.
Une dizaine de patients, des enfants, des adultes ont pu bénéficier de cette intervention de chirurgie à cœur ouvert. Une opération qui n'était pas gagnée d'avance, qui aujourd'hui sonne comme un succès. Aujourd'hui au Burkina, un service de chirurgie cardiaque fonctionne à merveille. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République du Congo, l'élection présidentielle aura lieu le 21 mars 2021. À mesure qu'avance la date butoir, la liste des opposants qui décident de boycotter le scrutin ne fait qu'enfler. Même l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, reconnue par la loi comme le chef de file de l'opposition congolaise, en fait partie. Qu'en pense la majorité présidentielle accusée, entre autres, de n'avoir pas préparé les conditions du bon déroulement du scrutin présidentiel qui pointe à l'horizon? Nanit Talani a joint depuis Brazzaville au Congo Elvis Chalissan au Kombi. Il est coordonnateur de la plateforme Denis Sassou Nguesso Ourien et député de Ngo dans le département des Plateaux. C'est aussi l'ancien ministre des Relations avec le Parlement.
Pour les Congolais lambda, je pense que ce retrait était attendu. L'UPADES n'est plus le second parti des années 92. Aujourd'hui, nous savons tous que l'UPADES n'est plus qu'une mutuelle où un certain nombre de cadres se sont accaparés de ce parti du professeur Pascal Lissouba. Cette décision est une escroquerie politique parce que ces mêmes leaders qui donnent des raisons fallacieuses pour ne pas se présenter à une présidentielle sont quand même volontaires pour participer aux prochaines élections législatives. Mais parce qu'ils savent très bien qu'au plan national, ils ne représentent rien. mais au plan local, ils sont capables de se faire élire députés dans leur village, dans leur département. Donc c'est une décision logique et nous savions déjà tout ce que l'UPADES ne pouvait pas aller aux élections présidentielles.
Certains opposants et membres de la société civile dénoncent l'impréparation dans ce scrutin majeur, notamment la non-révision des listes électorales. Que répondez-vous à ça?
Mais madame, au moment où nous parlons, la révision des listes est effective. Cette révision prendra fin le 7 février. Pour votre gouverne, il y a des commissions administratives de révision des listes électorales qui ont été mises en place. Et dans ces commissions administratives de révision des listes électorales, toutes les composantes de notre pays, je parle de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile, donc les organisations les plus représentatives de la société civile, sont représentées dans ces commissions administratives de révision des listes électorales. Il y a des bureaux d'enregistrement qui ont été mis en place. Donc là encore, je pense que c'est une méconnaissance de ce qui se passe dans notre pays. Mais bon, lorsque vous avez des opposants qui passent plus de temps dans leur maison que d'être au contact des populations, donc ils ne connaissent pas ce qui se passe dans ce pays.
Et donc, selon vous, les conditions sont réunies pour organiser un scrutin crédible et transparent au Congo le 21 mars?
Mais madame, un scrutin commence d'abord par une liste électorale. Nous avons une liste électorale consensuelle qui a été mise en place en 2014 avec le recensement administratif spécial. Et c'est cette liste-là que nous sommes en train de réviser aujourd'hui. La commission d'organisation des élections de notre pays est paritaire. La composition paritaire commence dès le bureau de vote qui est paritaire jusqu'à la commission nationale d'organisation des élections encore qui est paritaire. La commission vient d'être reformée. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Il s'agit que, pour que chacun soit candidat maintenant, que chacun pose sa candidature et se mette à aller battre campagne pour essayer de solliciter le suffrage des Congolais. Donc, toutes les conditions de transparence, d'égalité et de traçabilité des résultats sont réunies pour que nous puissions avoir un scrutin équitable.
Est-ce que le PCT peut encore offrir quelque chose au Congo après un long règne de 35 ans qui ne lui a pas permis d'aider les Congolais à vivre au-dessus du seuil de la pauvreté?
Bon, je ne sais pas du PCT, d'abord, il faut le dire. Mais je fais partie des partis qui soutiennent l'action du président de la République. Nous n'avons pas la prétention de dire que le président de la République a tout réussi. Ça serait un mensonge.
C'était Elvis Chalissan Okombi, coordonnateur de la plateforme Denis Sassou Nguesso ou rien et député de Ngoy dans le département des Plateaux. C'est aussi l'ancien ministre des Relations avec le Parlement.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le président américain Joe Biden signe 3 décrets ce mardi pour faciliter la naturalisation de 9 millions de migrants, la réunion des familles séparées et la refonte des voies d'immigration légale. M. Biden a déjà annulé la construction du mur à la frontière avec le Mexique et levé l'interdiction d'entrée sur le sol américain de ressortissants de certains pays. Nathalie Barge a demandé à Maître Joseph Fa quels sont les principaux problèmes d'immigration hérités de l'administration Trump et qu'est-ce qui va changer.
Commençons par la plus désastreuse à mon avis. Il s'agit de celle de la séparation des enfants de leurs parents. Ça, c'était quelque chose qui a affecté la condition humanitaire des enfants immigrés aux États-Unis. Biden a pour mission de tenter de faire un reversement total par rapport à cette loi-là. Au-delà de ce problème, il y avait également le fait que les demandeurs d'asile devaient rester au Mexique et en attendre leur date d'audience à partir du Mexique avant de pouvoir rentrer aux États-Unis s'ils sont reconnus éligibles pour obtenir l'asile ici à l'issue d'un procès. Il y avait également ce qu'ils avaient appelé le public charge rule. C'est une règle qui empêche à ceux des immigrants étant sur le sol américain qui ont utilisé les bénéfices comme les programmes sociaux, les food stamps, la santé gratuite, tout ça, ça vous empêchait d'obtenir la résidence permanente. Ou alors, si vous êtes résident et vous voulez demander la nationalité, que votre enfant est en train de bénéficier de l'un de ces programmes sociaux, vous vous verrez inéligible à travers le formulaire I-944 qu'ils ont créé pour vérifier qu'aucun des immigrants ici ne puisse entrer en possession d'une résidence permanente ou alors de la nationalité s'ils sont susceptibles de bénéficier de ces programmes sociaux. Un autre problème, il y avait ce qu'ils appelaient la déportation expéditive des gens pendant le COVID. Même quand vous avez un dossier d'asile qui pose un problème humanitaire, ils ne vous entendent même pas au fond de votre dossier, mais on vous rapatrie de façon expéditive en évoquant le titre 42 qui avait également à voir avec ce qu'ils appellent la pandémie du COVID-19, le public health emergency.
Alors à ce propos, la question du retour des expulsés n'est pas vraiment encore évoquée, mais au cas où cela devrait se produire, dire, les procédures doivent être assez complexes pour ce type de cas.
Ah, tout à fait. Retourner ces personnes qui avaient été expulsées ici, ce serait extrêmement compliqué parce que tel que le droit positif américain le prévoit jusqu'ici, lorsque vous êtes déjà déporté une fois surtout pour avoir violé le droit d'immigration, vous êtes prévenu de revenir ici sur une durée de presque 10 ou 20 ans en fonction de ce qui vous est reproché. Et puis il faudrait d'abord attendre que cette période s'écoule et que vous devez monter un autre dossier pour demander qu'on vous excuse. Et même avec Obama, c'était des procédures extrêmement compliquées.
L'administration Biden parle de naturaliser 9 millions de migrants. Dans quel cas sont ces migrants en particulier ?
Il s'agit de ceux qu'on appelle les DACA, les enfants qui sont arrivés ici très tôt par des parents, et beaucoup d'autres migrants qui sont ici depuis un bon nombre d'années. On parle environ de 11 millions de personnes, et c'est un programme qui s'étale sur une durée de 8 ans pour que, si vous avez respecté toutes les conditions, que vous soyez à terme éligible pour la nationalité américaine. Pour ce qui est de DACA, c'est un programme, si ça passe immédiatement, ceux des DACA devront automatiquement avoir la résidence permanente, communément appelée la Green Card.
Maître Joseph Fa, qui traite notamment des cas d'immigration, était joint dans le Maryland.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le Sénat américain tient à partir de la semaine prochaine un deuxième procès historique en destitution de Donald Trump. L'ex-président sera jugé pour incitation à l'insurrection en lien avec l'intrusion de ses partisans dans le Capitole américain le 6 janvier dernier. Comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, les élus pourraient décider d'interdire à l'ancien locataire de la Maison-Blanche de ne plus jamais se présenter à nouveau aux élections fédérales aux États-Unis. C'est un récit signé Jacques Aristide.
Ce sont ces mêmes couloirs, pris d'assaut par les émeutiers il y a quelques semaines à peine, que les démocrates de la Chambre des représentants ont emprunté pour remettre l'article de destitution au Sénat le 25 janvier dernier, accusant Donald Trump d'avoir incité à cette émeute après avoir allégué à tort que la présidentielle de l'année dernière avait été volée.
We will never give up, we will never concede.
Nous n'abandonnerons jamais, nous concéderons jamais.
Plus de 160 personnes à travers le pays ont été arrêtées et inculpées pour leur participation à l'assaut du 6 janvier et des centaines d'autres font l'objet d'enquêtes. Le département de la sécurité intérieure a récemment émis un bulletin d'alerte consacré à la menace que représentent les extrémistes nationaux alors qu'un Californien est accusé d'avoir comploté pour faire exploser des bâtiments à Washington. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
Trump doit être jugé et condamné pour qu'aucun futur président ne puisse penser qu'il est normal d'inciter à l'insurrection.
Certains dirigeants républicains ont reconnu le rôle de Trump dans l'émeute. Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat.
The mob was fed lies.
On a alimenté la foule de mensonges. Elle a été provoquée par le président et d'autres personnes puissantes.
La majorité des deux tiers est requise pour qu'une condamnation soit prononcée au Sénat. Si les 50 démocrates votent pour, ils auront besoin de 17 voix républicaines pour déclarer Trump coupable. Seuls 5 républicains de la Chambre ont voté pour aller de l'avant avec le procès, faisant fi des objections selon lesquelles juger un ancien président n'est pas constitutionnel. Azul Hugg de l'Université de Chicago.
Republicans in the Senate.
Les sénateurs républicains réfléchissent au rôle potentiel que l'ancien président Trump peut jouer dans la politique républicaine. Soit quelqu'un qui va aider, soit qui va faire le contraire. Ils vont voter en fonction de leur sens de l'avenir du parti républicain.
Les démocrates craignent qu'il n'y ait pas assez de votes républicains pour condamner et que le procès détourne l'attention des premières semaines du mandat du président Joe Biden. Certains ont proposé un vote de censure plus tôt, une option rejetée par les démocrates. Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat.
Make no mistake, there will be a trial.
Ne vous y trompez pas, il y aura un procès et les preuves contre l'ancien président seront présentées de façon claire et nette pour que la nation et chacun de nous les voient.
L'équipe d'avocats de Trump a connu des changements alors qu'il maintient ses allégations de fraude électorale. Un vote à la majorité simple pourrait l'empêcher de se présenter à nouveau aux élections fédérales, mais une condamnation est peu probable. Donald Trump est l'unique président de l'histoire des États-Unis à avoir vécu deux fois un impeachment. Il va également être le premier ancien président à être jugé au Sénat.
C'est la fin de ce journal. À la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Borissin. À la présentation, John Lyndon, édition en chef, Timothée Donangmaï. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.